m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue pour une édition de Restons Courtois, préenregistrée le vendredi, pour permettre aux pentecôtistes de la réinformation de passer un lundi en famille. Au menu aujourd'hui, la rediffusion d'un petit entretien de 30 minutes avec Nicolas de Villiers, qui a été enregistré avec Richard de Sèze, au sujet du projet de financement du château de Chambord, qui a été proposé par le Puy du Fou et, de manière assez étrange, rejeté par l'État, qui pourtant n'a pas d'autre alternative en l'état, justement. Et puis ensuite, nous aurons un long rendez-vous de la réinformation, 90 minutes, 1h30, le temps d'un match de balle au pied, d'une partie de balle au pied, avec les rebonds. Mais sauf que nous, on ne se tape pas dessus à la sortie, on ne casse pas tout dans la rue. Avec les rebondissements donc, de la pétition anti-Bolloré. Alors d'abord, que faut-il penser de l'impact de cette pétition dans le monde du spectacle, après la riposte de Maxime Sada, donc qui est le directeur général de Canal+, qui a expliqué qu'il ne travaillerait plus avec les signataires de cette pétition. Et puis que penser des signataires en question, puisque après examen des 2000 et quelques signatures, alors on a une certitude, c'est que ce sont tous des gauchistes. En revanche, il est vraiment loin d'être sûr que ce soient tous des représentants de l'industrie du cinéma. Nous parlerons ensuite d'intelligence artificielle. Nous en avions déjà parlé il y a quelques semaines, et alors que la Chine et les États-Unis ont pleinement compris et pris en compte les défis de cette révolution technologique, eh bien malheureusement la France reste, elle, encroûtée dans de vieilles polémiques d'arrière-garde et regarde passer les trains. Et pourtant, des millions d'emplois sont menacés de disparition, mais d'un point de vue même anthropologique, philosophique, le phénomène de l'intelligence artificielle peut simultanément produire des richesses gigantesques et provoquer une misère morale et intellectuelle qu'on n'aura encore jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Alors, aux États-Unis, des personnalités comme Elon Musk ou Sam Altman étant un des pionniers de l'intelligence artificielle, réfléchissent à l'évolution matérielle et philosophique de l'humanité. En Chine, la métamorphose est déjà en cours. Alors, comment préparer la population en Europe et en France à ces mutations qui surgissent déjà chez nous? Et puis, comment préserver les intérêts vitaux de nos États face aux défis qui surgissent? Et comment aussi rester compétitif face aux pays concurrents qui, eux, ne nous attendent pas? Eh bien, c'est dans les studios de Radio Courtoisie qu'on va vous donner les réponses, puisque nos chefs d'État ne le font pas. Après ces réflexions de haut vol, retour sur le plancher des vaches avec la bête censure numérique et politique, celle qui menace Radio Courtoisie, qui frappe F2Souche, qui frappe l'incorrect. La cagnotte en ligne de F2Souche a été supprimée pour l'empêcher de récolter des fonds indispensables à sa survie. Jeudi plutôt, c'est Arthur de Vatrian qui m'appelait pour me dire que le compte Instagram de l'incorrect avait été arbitrairement supprimé sans justification, et la seule alternative maintenant sera pour l'incorrect de passer par les tribunaux. Et dans le même temps, Radio Courtoisie est mis en demeure par le même groupe, Meta, pour, je cite, la non-conformité de notre compte Facebook avec la charte des valeurs du groupe américain. Donc nous ne sommes pas conformes aux valeurs de ce groupe. Alors d'un certain point de vue, j'ai envie de dire, tant mieux, on est content, mais c'est quand même un tout petit peu gênant, j'aimerais pas que il nous arrive, comme avec l'incorrect, de se faire supprimer notre compte. Voilà, donc, après les menaces qui ont été portées par la Commission des Finances de l'Assemblée nationale par la voix du député LFI Éric Coquerel, celui qui veut donc nous priver d'émettre des reçus fiscaux, eh bien, que faut-il penser de ces attaques contre des médias libres? Est-ce que c'est un hasard, une coïncidence? Peut-être pas. Hein. Voilà, donc on en parlera également. Et puis, nous terminerons notre émission par une autre attaque. qui cette fois touche Édouard Philippe. Alors qu'il s'apprête à déclarer sa candidature à la présidentielle, eh bien, l'ancien Premier ministre et maire du Havre est mis en examen par le parquet national financier pour des soupçons de détournement de fonds publics, de favoritisme, de prise illégale d'intérêts et de concussion. Alors, faut-il avoir en la justice de notre pays ? Faut-il y voir les résultats d'une guerre fratricide au sein de l'extrême-centre ? Ou bien, peut-être plus banalement, est-ce simplement le résultat de procédures assez classiques qui touchent simplement une personne extrêmement connue ? Eh bien voilà, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos pentecôtistes de la réinformation, avec Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, qui sera heureux d'être taxé de pentecôtiste.
Mais oui, tout à fait. Voilà.
Avec Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect, Xavier Van Lierde, journaliste, et Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, et Virginie nous accompagne pour ces deux heures d'émission. Chers auditeurs, exceptionnellement, vous ne pouvez donc pas envoyer de message pour être lu en direct, mais vous pouvez évidemment nous écrire vos commentaires à cette émission, vos réflexions, vos questions, et puis nous y répondrons évidemment la semaine suivante. Mais avant ça, donc, nous écoutons un entretien de Richard de Sèze avec Nicolas Devilliers.
Bonjour monsieur, vous êtes président du Puy du Fou et Pascal Ménanier qui est secrétaire général de la rédaction du Journal du Dimanche, du JDD. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Voilà, vous dirigez l'un des spectacles les plus vus en France, je crois que vous avez explosé tous les records en 2025. Je ne sais pas comment ça va se passer en 2026, vous avez peut-être déjà une idée ?
Écoutez, pour l'instant, la saison est bien lancée. Nous avons, vous savez, une vingtaine de spectacles au Puy du Fou et non pas un seul spectacle. Mais je vous invite bien sûr à venir le découvrir pour que vous puissiez en prendre toute la mesure. Et le Puy du Fou a en effet accueilli 3 millions de visiteurs en 2025. Et il est probable que cette progression continue puisque chaque année, c'est 200 à 300 000 visiteurs supplémentaires qui viennent nous voir au Puy du Fou.
Alors, le Puy du Fou, c'est une entreprise absolument magnifique qui existe depuis des décennies, qui a peu à peu grossi, qui a réussi à développer un écosystème tout à fait intéressant entre le spectacle, le parcours, l'hôtellerie. C'est toute la région qui profite en fait du spectacle. Il y a une vitalité économique qui a été peu à peu bâtie. Et en France, ailleurs, il y a un château, Chambord, qui lui existe depuis aussi, non pas quelques décennies, mais quelques siècles, et qui a l'air d'être un peu à la peine, fissures, poutres fragilisées, lézardes dans les murs, électricité défaillante, problèmes climatiques, et l'État crie misère. Voilà, il y a un chantier de 37 millions d'euros, et l'État, pour le moment, en a péniblement aligné 6. Et vous avez proposé, en fait, de venir en aide à Chambord en envoyant un message assez simple. Notre modèle économique a démontré son succès et nous permettrait de sauver Chambord de la ruine qui menace ce joyau français. Notre main tendue à l'État est celle d'amoureux du patrimoine qui veulent contribuer à éviter de lourdes dépenses publiques pour les remplacer par un modèle privé fondé sur le succès culturel et touristique. Il me semble urgent de cesser de puiser dans les caisses de l'État des ressources trop rares quand il est possible de faire autrement. Le Puy du Fou l'a prouvé. Il est temps que l'État désargenté accepte les mains tendues. Et en fait, vous proposiez à l'État de mettre à son service votre sens de l'ingénierie culturelle. Je rappelle, vous êtes président du Puy du Fou aujourd'hui, mais en fait, vous avez commencé par être un bénévole en représentation. Vous étiez bébé dans les bras de votre mère quand vous étiez déjà sur la scène du Puy du Fou. Et depuis, voilà, vous avez été Puy Follet, vous avez dirigé plusieurs des entreprises qui constituent ce grand spectacle, ce grand parc. Et l'État vous a répondu un peu sèchement. Et d'ailleurs, en disant, ben non, finalement, on n'a pas besoin du Puy du Fou, on a trouvé toute la thune. D'ailleurs, c'était votre premier succès, il a suffi que vous proposiez d'aider l'État pour que l'État trouve l'argent. Comment réagissez-vous à ce refus de l'État de profiter de l'intelligence que vous avez de la chose culturelle et touristique ?
Alors, d'abord, il faut remettre les choses dans l'ordre, mais vous avez raison dans la synthèse. En fait, lorsque j'ai proposé au directeur de Chambord, il a accueilli la proposition avec beaucoup d'enthousiasme de cette idée d'installer un modèle tel que le Puy du Fou l'a développé. Dans un château, le Puy du Fou, qui est trois fois plus petit au moins que Chambord et qui accueille pourtant trois fois plus de visiteurs que Chambord. Et donc, il était naturel et je dirais un réflexe de bon sens que de proposer à Chambord d'imaginer un modèle sur, je dirais, à l'image du Puy du Fou. Et puis, Lorsque le directeur Chambord m'a dit « c'est le ministère de la Culture qui est compétent », j'ai appelé le ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture m'a répondu avec aussi une forme d'enthousiasme, en tout cas le cabinet de la ministre. Hein, je n'ai pas eu la ministre en direct puisqu'elle était visiblement trop occupée pour gérer Chambord et sa ruine. Et donc, j'ai parlé avec le directeur de cabinet qui m'a dit « mais pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais il faut d'abord que je demande l'aval non seulement de ma ministre, la ministre de la Culture, mais également du président de la République ». Alors là, je vous avoue que j'ai été d'abord un peu étonné et voire stupéfait d'entendre que cela relevait de l'Élysée. Et puis, quelques jours plus tard,
les fissures, d'une manière générale, ça relève de l'Élysée. C'est peut-être à cause de ça.
Mais écoutez, en tout cas, je ne savais pas que l'Élysée avait suffisamment de menuisiers pour réparer les planchers de Chambord. Mais enfin, toujours est-il que j'attends 10 jours. Et puis, au bout de 10 jours, le directeur de cabinet tient sa promesse et me rappelle. Et me dit, voilà, finalement, mon enthousiasme a été un peu douché, me dit-il, parce que ça ne sera pas possible. Pour la raison suivante, l'élection présidentielle est dans un an, et donc pendant un an, il ne se passera rien en matière de politique culturelle, aucune initiative ne pourra être prise en France. Donc, je vous avoue que j'ai été assez stupéfait d'entendre cette réponse, non pas parce que le Puy du Fou aurait quelque intérêt à développer quoi que ce soit à Chambord. Vous savez, nous, on se développe à l'international. C'est beaucoup plus intéressant pour nous de faire rayonner le Puy du Fou à l'étranger, de faire rayonner d'ailleurs la France à travers notre modèle, que d'aller se lancer dans un projet à Chambord qui serait sans doute très en dessous en termes de dimension de ce que nous pouvons faire dans d'autres pays. Mais pour autant, là encore, vous l'avez souligné, c'est un réflexe d'amoureux du patrimoine. Alors, moi, je suis stupéfait d'entendre que finalement, sur 5 ans de mandat, un président de la République, par exemple, eh bien, se trouve bloqué pour la dernière année de son mandat. Il ne prend aucune initiative. Lui ou son gouvernement ne peut prendre aucune initiative. Et puis après, j'ajoute à cette réponse, moi-même, une réaction. Je dis à mon interlocuteur, écoutez, où allons-nous, où allez-vous trouver les 27 millions nécessaires à la seule rénovation des ailes du château qui sont aujourd'hui fermées au public parce qu'elles s'écroulent, et seulement depuis quelques années. Donc les choses vont très vite. En ce moment, la ruine s'accélère. Et la réponse de mon interlocuteur, donc représentant le ministère de la Culture, c'est de me dire « ne vous inquiétez pas, c'est bon, nous allons trouver les crédits ». Je lui dis « d'argent public », il me dit « oui, d'argent public ». Donc ma réaction, et vous conviendrez qu'elle est de bon sens, c'est de dire finalement « si je n'avais pas passé ce coup de téléphone, l'État aurait-il trouvé les 27 millions manquants ? Et maintenant, on me répond « non, non, mais après votre coup de téléphone, ne vous inquiétez pas, on va trouver les 27 millions et on va les affecter ». Donc, on puise encore une fois dans la poche du contribuable de l'argent public pour rénover des planchers et des fissures dans les murs d'un château qui est un joyau français, alors même qu'il y aurait une autre voie, et c'est ça que je défends, non pas la seule voie du Puy du Fou, bien sûr, même si moi je propose naturellement mon modèle, mais je crois qu'il y a aussi d'autres modèles possibles que le Puy du Fou. Il ne s'agit pas de répondre oui à ce que le Puy du Fou propose, il s'agit simplement de dire, écoutez, ouvrons la porte à une discussion rapide, efficace, sur le modèle de l'entrepreneuriat privé, dans laquelle on étudierait la possibilité d'un modèle de partenariat public-privé permettant à Chambord, eh bien en fait, de créer une richesse qui soit pérenne, un modèle qui finalement permette d'entretenir le château, de le faire vivre, mais surtout de prolonger sa vie dans le temps et de l'offrir aux générations suivantes. Je crois que c'est notre devoir d'héritier du patrimoine français que de prendre les moyens, de trouver les moyens, de trouver les solutions pour que nous puissions transmettre aux générations suivantes. Voilà, moi, l'esprit de ma démarche, c'est une démarche tout à fait désintéressée. Le Puy du Fou n'a pas besoin de Chambord pour se développer, pour grandir. Ça ne fait absolument pas partie de notre stratégie, j'allais dire, puisque nous nous développons en Espagne, aux Pays-Bas, en Angleterre et dans d'autres pays actuellement. Donc, Chambord est simplement le réflexe d'un lecteur du journal Le Monde que je suis, qui voit dans ce journal Le Monde le 2 avril dernier cet appel au secours du directeur de Chambord.
Alors, une collecte a été lancée, il y a une cagnotte lancée par Chambord qui a réuni à peu près 650 000 euros voilà, et qui d'ailleurs réclame 1 million sur les 37 dont il a besoin. Donc on voit qu'ils ont dimensionné leurs ambitions au rythme des fissures. Il y a dans votre proposition, je cite l'article du Figaro et l'interview que vous leur avez donnée, vous rappelez en fait qu'il y a 300 millions d'euros de chiffre d'affaires au Puy du Fou, ça signifie pas 300 millions d'euros de bénéfices, mais 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes capable de générer effectivement un trafic économique important. Voilà, on est loin de la PME. Il y a aussi dans votre proposition, et je vous cite, Si on nous autorisait, dans le cadre d'une délégation de services publics, à offrir nos services à Chambord, nous serions en mesure de mobiliser une centaine de millions d'euros. Autrement dit, vous seriez capable de mobiliser trois fois plus que ce dont le château a besoin. Et c'est ça que, le ministère de la Culture refuse. Vous leur avez envoyé un petit mot un peu sec. Quand sauver Chambord redeviendra votre priorité, vous saurez où nous trouver. Voilà. Donc, c'était un tweet sur le réseau X, anciennement Twitter, du 18 mai. Je suppose que le tweet n'a pas eu de réaction immédiate. Voilà, c'était avant-hier.
Écoutez, n'oubliez pas qu'ils m'ont répondu qu'ils gelaient toute forme d'initiative en matière politique d'ici la présidentielle. Donc, évidemment, ils n'ont pas pu répondre et je pense qu'ils ont gelé aussi leur compte Twitter. Ce qui est certain, c'est que les 100 millions d'euros que j'évoque en effet dans cet entretien avec Le Figaro correspondent à la capacité d'investissement aujourd'hui du Puy du Fou chaque année. C'est-à-dire que nous sommes capables d'investir entre 75 et 100 millions d'euros par an. C'est aujourd'hui la vitesse de croisière de nos investissements. Donc si nous créions un modèle sur le château de Chambord à l'image de ce que nous avons fait au Puy du Fou, nous serions en mesure en effet d'avoir cette capacité d'investissement. C'est-à-dire en fait, quand vous comparez les chiffres des besoins et de la richesse générée, ben vous voyez bien qu'on serait capable de couvrir sans difficulté, main dans la main avec l'État, mais grâce aux recettes seulement touristiques sur le château, l'ensemble des besoins de Chambord et même bien au-delà. Et c'est pour ça que je mentionnais ces chiffres, pour donner un ordre d'idée. Encore une fois, le Puy du Fou est un petit château de la Loire égaré dans les collines vendéennes et nous avons réussi à en tirer un modèle artistique qui a pour corollaire un modèle économique extrêmement dynamique. Nous avons 5000 personnes aujourd'hui qui travaillent grâce au Puy du Fou, 5000 employés du Puy du Fou. Et voyez comme on pourrait faire avec Chambord, j'allais dire des merveilles, parce que c'est là encore l'un des plus grands châteaux français, sans doute avec Versailles et Chenonceau. Et donc je crois que Chambord mérite une véritable ambition artistique et mérite que la pierre reprenne vie. Et c'est un peu l'intuition du Puy du Fou, car nous faisons du spectacle vivant, inspiré de l'histoire, comme vous le savez.
Alors, il y a quelque chose d'étonnant, en fait, dans l'idée de tout geler dans la dernière année. C'est que d'une part, on sent bien qu'Emmanuel Macron se dépense sur la scène nationale et internationale pour montrer qu'au contraire, que tout continue, que tout fonctionne à merveille. En tout cas, il le prétend. Dans le JDD, Pascal Ménagnier, vous avez publié des pages qui prouvent que d'un point de vue économique, on peut avoir une vision différente de celle de Roland Lescure du bilan de Macron. Voilà, c'était un article paru très récemment. Et il y a cette idée d'un gel qui est un peu surprenante puisque Emmanuel Macron, par ailleurs, lance avec ce qu'il appelle la méthode Notre-Dame des projets pour accélérer l'initiative privée, faire en sorte de réindustrialiser la France. Et on se dit que par rapport au péril architectural que représente Chambord, cette méthode Notre-Dame, où l'État a décidé d'oublier lui-même les lois qu'il avait votées, les lois qu'il avait sanctifiées en les inscrivant dans le code, voilà. En 4 ans, on a réussi à rebâtir Notre-Dame. Alors, ce n'est pas fini, mais voilà, Notre-Dame est à nouveau ouverte au culte parce qu'on a su aller très vite. Et donc, ce que vous proposiez à Chambord et à l'État, c'est d'aller vous aussi très vite, là aussi, pour sauver un chef-d'œuvre en péril. Donc, autrement dit, on a quand même l'impression que l'élection présidentielle est presque un mauvais prétexte et que ce qu'on reproche au Puy du Fou, c'est peut-être aussi le sens de l'histoire du Puy du Fou. Ce qu'on reproche au Puy du Fou, c'est d'être géré par la famille de Villiers. Autrement dit, on reproche en fait une vision de l'histoire et peut-être l'État a-t-il d'une part peur que vous n'imposiez votre modèle culturel, celui d'un certain roman national, par rapport qui, une fois plus, va des Vikings jusqu'au XXe siècle, autrement dit, vous embrassez large, et au-delà de ce que le roman national embrassait au XIXe. Et on se retrouve là avec en fait une décision de base politique, d'une certaine manière.
Alors écoutez, moi je ne peux pas interpréter comme vous le faites, c'est votre rôle de journaliste et donc de commentateur de dire finalement probablement qu'il y a une raison qui n'est pas dite dans cette réponse. Moi je m'en tiens aux faits et les faits c'est que j'ai un cabinet de la ministre plutôt enthousiaste dans le premier coup de téléphone et puis dans le second coup de téléphone de retour finalement attendu par les autorités. On me dit, ah ben finalement, ça n'est pas possible. Et en effet, je souligne avec vous le fait que Le président de la République communique beaucoup hein, sur l'idée de faire, comme pour Notre-Dame, des courts-circuits dans les systèmes classiques administratifs un peu lourds pour pouvoir arriver plus vite à sauver un patrimoine français en péril. Mais en réalité, dans les faits, on voit bien que cette communication, aussi louable soit-elle, n'est probablement pas suivie des faits, puisque sur la seule année qui vient, on m'explique qu'il est impossible de prendre aucune initiative culturelle, alors même que vous imaginez bien que, comme entrepreneur privé, que si nous prenions le dossier à bras-le-corps, en quelques mois, nous serions capables de bâtir un projet, de dessiner une perspective pour le château de Chambord, parce que, j'allais dire, c'est un tel joyau que c'est pour nous une forme d'évidence et que, est-ce que c'est le modèle du Puy du Fou qui, vous avez dit, fait peur, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'angle artistique que nous avons qui peut inquiéter ? Je crois que lorsque on est en train de se noyer et qu'une main se tend, je pense que c'est une erreur de ne pas la saisir au prétexte qu'elle n'est pas la main qu'on attend. Et je crois en plus que lorsque on peut alléger le fardeau de l'État, alors même que les caisses de l'État, nous dit-on en tout cas au plus haut niveau, sont vides, alors même que le déficit semble se creuser, c'est ce qu'en tout cas j'entends comme vous tous les jours, eh bien je trouve qu'il est temps que l'État saisisse les mains qui se tendent, quand bien même ce sont des mains du secteur privé, quand bien même c'est dans le secteur culturel qui parfois revendique la force du public, eh bien je crois que nous pouvons faire de belles choses, de grandes choses, et encore une fois, le Puy du Fou l'a démontré. Et je vous rappelle que le Puy du Fou s'est développé depuis son origine sans aucune subvention publique. Nous n'avons jamais reçu le moindre euro d'argent public. Donc le contribuable n'a jamais payé pour que le Puy du Fou existe depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc exactement ce modèle-là que je propose aussi à Chambord.
Effectivement, un modèle qui ne coûte rien à l'État. On comprend que l'État soit un peu interloqué. Pascal Ménadier, une question pour Nicolas de Villiers ?
Oui, c'est, tout ce qui a été dit... J'y souscris. Je rajouterais peut-être une dimension supplémentaire. C'est la dimension de Paris et la province. On s'aperçoit qu'en réalité, le président de la République a donné beaucoup de moyens pour Notre-Dame, 900 millions. Il a donné beaucoup de moyens pour le Grand Palais, 600 millions. Beaucoup de moyens pour le Louvre, la rénovation du Louvre, 800 millions. Et en réalité, c'est le reste de la France qui n'a pas de moyens. Le patrimoine se dégrade. Ça a été l'objet de plusieurs rapports. Et pour le coup, il y a aussi à la dimension qu'a évoquée Nicolas de Villiers, une dimension aussi Paris et province. En fait, j'aurais aimé le questionner à propos de ça, de cette dimension Paris-Province. Est-ce qu'elle est importante ? Est-ce que vous la vivez, vous, au quotidien, en réalité ?
Ouais, tout à fait. C'est très juste. Vous avez raison de relever ça. D'ailleurs, le Puy du Fou est difficile à appréhender pour Paris parce que nous sommes aujourd'hui dans le top 5 des sites les plus visités en France. Et quand je vous dis le top 5, c'est Disneyland Paris, mais c'est aussi le Louvre, Versailles, la Tour Eiffel. Vous voyez, ces quatre grands sites que je cite sont tous en région parisienne ou dans Paris. Et nous sommes le seul site qui n'est pas dans Paris. Et il y a en effet une vraie difficulté, c'est clair, d'un certain nombre de nos gouvernants à comprendre la province. D'ailleurs, à Paris, je remarque cette logomachie tout à fait étrange pour moi qui suis un homme de la province, qui ai grandi en province. On parle de nous comme des gens des territoires. Oui. Alors, ce mot est un mot qui vraiment me fait horreur, je vous le confie, c'est la première fois que je le dis à un média. C'est un mot qui me fait horreur parce que c'est un mot qui dénote cette fameuse distance créée de manière, je dirais, forcée et peut-être d'ailleurs involontaire, inconsciente, par l'élite parisienne, par les gens qui gouvernent la France, mais qui en réalité se promènent d'un arrondissement à un autre. J'ai, par mon métier, la chance d'être à la fois à Paris et en province, d'être très souvent donc dans notre capitale. Et je vois bien que l'élite à laquelle on parle, les dirigeants auxquels on parle, les ministères à qui on a affaire, sont constitués de gens, et les politiques, mais parfois les hauts fonctionnaires aussi, qui finalement ne déambulent que dans quelques kilomètres carrés, et même moins, et qui n'ont aucunement conscience qu'on a en province des besoins qui sont tout à fait différents, à commencer d'ailleurs par exemple, la voiture est nécessaire pour venir au Puy-du-Fou, comme pour visiter les châteaux de la Loire, parce que le train ne peut pas desservir, et encore moins le métro, l'ensemble des lieux les plus emblématiques de notre beau pays de France. Et il y a comme ça une sorte de déconnexion à la fois politique, culturelle, qui est très juste. Et on le sent vraiment parce que il y a une forme de désintérêt, de méfiance, d'angoisse même parfois, hein, disons les choses, et je n'en veux même pas, mais il y a une forme d'angoisse quand on se présente dans les ministères parce qu'on arrive de province et tout à coup, on a l'impression que les experts qui nous font face doivent s'adapter comme s'ils devaient changer de langue pour parler aux gens des territoires, expression que je mets entre guillemets car elle n'est pas de moi et c'est une expression que je réfute particulièrement. J'aime le mot de province et je trouve un peu déplorable et même très dommageable pour la France que Paris parfois s'enferme un peu sur lui-même, c'est très vrai. Il y a heureusement, ne faisons pas de cela une généralité, il y a heureusement des gens à Paris qui ont parfaitement des racines en province et qui connaissent très bien la province. Mais c'est vrai qu'il y a, vous avez raison, cette tendance. Et donc la culture, lorsqu'elle vient de province, elle est parfois un peu suspecte parce qu'elle est populaire et qu'elle n'est pas élitiste. Vous savez, la force du Puy-du-Fou, c'est que nous avons inventé un modèle qui est difficile à comprendre, peut-être dans certaines sphères culturelles, qui est le modèle du haut de gamme populaire. Et précisément, nous réconcilions deux idées. L'idée qu'on peut accueillir un large public, un public qui a peu de moyens, un public qui ne va pas dans les théâtres, un public qui est le grand public français, qui vient de toutes les provinces françaises, y compris de Paris d'ailleurs, hein, très nombreux aussi au Puy-du-Fou, ce public parisien. Et on peut proposer à ce public très large, à ce public très familial, à ce public qui a peu de moyens, du haut de gamme, c'est-à-dire des spectacles de qualité mondiale. Et on doit pouvoir les proposer à un prix qui permet à ces familles qui ont finalement peu de moyens eh bien, d'avoir accès à cette culture d'excellence qui doit faire honneur à la France, en France, mais bien sûr aussi dans le monde. Et c'est ça le modèle que le Puy-du-Fou défend, et c'est celui-là même que nous développons partout, en notre nom propre, mais aussi un peu, comme tout fleuron français, au nom de la France.
Cher Nicolas de Villiers, lorsqu'on a entendu cette histoire, on présupposait ou on s'imaginait une sorte de don ou de subvention du Puy-du-Fou au domaine de Chambord de 10 millions qui aurait été refusé. En lisant l'article, en vous écoutant, les choses sont suivies de loin parfois, vous nous parlez d'un projet plus ambitieux. Vous nous parlez de copier l'événementiel finalement ou d'adapter l'événementiel à l'histoire spécifique et au domaine de Chambord. Ce faisant, vous donnez un peu l'eau à la bouche aux auditeurs sans doute, qui s'imagineraient peut-être un spectacle son et lumière au domaine de Chambord. Est-ce que vous aviez quelque chose à l'idée d'un peu plus précis? Justement, voir revivre François Ier lors d'une grande chasse ou quelque chose comme ça.
Ah, écoutez, vous me demandez déjà d'écrire devant vous un scénario de spectacle et je m'en garderai. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Chambord est immédiatement inspirant. C'est un lieu qui, je vous le disais, est l'un des plus beaux châteaux français et par conséquent, les personnages qui l'ont traversé, qui en sont d'ailleurs un peu la signature, à commencer par François Ier, bien sûr, mais on sait aussi que Léonard de Vinci a peut-être apporté sa contribution. Tout ça doit être fait avec prudence, dit avec prudence, parce que les historiens veillent et ils ont raison. Mais en effet, je crois que Chambord peut être facilement mis en scène sous différentes formes que je ne vais pas développer ici à votre micro, mais je crois en effet qu'il y a plusieurs formes de spectacles à créer à Chambord, à la fois dans le château même, dans l'enceinte du château, mais aussi dans les alentours. Vous savez que Chambord, c'est aussi une propriété de plusieurs centaines d'hectares et qui est remarquablement gérée d'ailleurs, et donc qui mérite en effet, pourquoi pas, eh bien, de déployer tout un modèle à la façon du Puy-du-Fou qui se déploie sur 150 hectares avec une vingtaine de spectacles, je vous le disais, destinés à tous les publics et qui permettent, ces spectacles, eh bien, de goûter l'histoire d'un lieu. Vous savez que nous avons inventé un modèle qui est le modèle du spectacle inspiré, enraciné dans une histoire. Et donc oui, Chambord est très inspirant et nous aurions pu y faire de grandes choses, c'est certain. Mais nous verrons, peut-être justement, que l'avenir nous permettra, nous ouvrira de nouvelles portes.
Justement, ce serait peut-être la seule réserve, pas forcément la réserve, mais la seule question qui pourrait soulever d'ailleurs ce beau projet. Un spectacle enraciné dans une histoire, dans un lieu. Le Puy du Fou et le succès économique du Puy du Fou doivent aussi à cette belle culture du bénévolat qui est celle finalement de l'ouest de la France. Enracinée dans le catholicisme et donc dans l'engagement associatif. On a des gens qui donnent de leur temps, parce qu'on donne simplement dans l'église, et qui donnent notamment comme Puy Follet ou comme volontaire, comme bénévole, etc. Et cela aide et cela apporte beaucoup au Puy du Fou. Puisqu'on sait que la plupart des parcs à thème en France sont déficitaires, à l'exception du Puy du Fou. Est-ce que ce modèle est superposable hors du contexte vendéen, où on a effectivement des gens qui s'engagent, qui parfois donnent de leur temps, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs en France. Vous parlez du modèle Puy du Fou qui peut s'exporter partout ailleurs. Est-ce que d'autres petites Vendées sont envisageables en France pour faire naître d'autres Puy du Fou ou spectacles historiques de ce type?
Alors oui, je le crois. Je crois que le bénévolat est possible ailleurs en France. Mais pour vous répondre de manière précise, ça n'est pas le bénévolat qui fait vivre le Puy du Fou. Aujourd'hui, le bénévolat est contenu dans une association. L'association du Puy du Fou, c'est la maison mère. C'est notre joyau à nous, parce que c'est là que la charge morale, je dirais, réside pour le Puy du Fou. Mais pour autant, dans le modèle économique du Puy du Fou, ça n'a plus aujourd'hui de poids économique. C'est-à-dire que l'association du Puy du Fou, c'est 2 à 3% du chiffre d'affaires du groupe, du grand Puy du Fou, vous voyez, avec l'ensemble de nos activités. Donc, ce sont les 5000 talents salariés qui constituent l'immense majorité du chiffre d'affaires. Je me permets de faire cette petite précision parce qu'on aurait tendance à penser parfois, et je l'entends tout à fait dans la sphère médiatique, que le Puy du Fou ne pourrait pas vivre sans ses bénévoles. En fait, notre grande force, c'est pourquoi nous conservons le principe du bénévolat à la tête du Puy du Fou, alors même que nous pourrions économiquement nous en passer très largement. Eh bien, précisément parce que nous voulons garder dans la force du bénévolat, la force de la bonne volonté, une force et un état d'esprit, un esprit qui irrigue l'ensemble des tissus de l'entreprise par un effet de reflet et d'admiration mutuelle. Nos talents savent que leur actionnaire n'est pas un fonds d'investissement, ça n'est pas la caisse des dépôts et consignations, comme ça peut être le cas d'autres sites de loisirs, ça n'est pas non plus un état étranger, mais c'est une association dans laquelle l'ensemble des sociétaires, comme on dit dans une association, c'est-à-dire des membres bénévoles de l'association, sont parfaitement bénévoles et personne ne tire de dividendes, y compris votre serviteur, à titre personnel, des bénéfices gérés par le Puy du Fou. Donc vous voyez, comme le bénévolat est pour nous simplement une force symbolique, mais extrêmement importante, sans laquelle, je pense, le Puy du Fou perdrait son âme. En revanche, il ne perdrait pas son modèle économique. Alors ensuite, c'est vrai que vous posiez la question de savoir si dans d'autres régions de France, il serait possible ou non de créer des associations sur le modèle du bénévolat. La réponse est oui, bien entendu. Ça n'est pas l'apanage de la Vendée qui a en effet un état d'esprit très particulier dont nous sommes très fiers. Et si je vous me lançais sur la Vendée, je vais vous parler des heures avec peut-être une forme de chauvinisme assumé parce que je suis, comme beaucoup de Vendéens, très fier d'être Vendéen, mais pour des raisons qui tiennent à une forme de dynamisme et d'identité très marquée en Vendée, très particulière. Mais en effet, je crois pour autant que le bénévolat s'applique dès lors qu'il y a un projet clair, une œuvre qu'on place au-dessus de soi et qui emmène une communauté humaine dans une direction très claire qui permet à tous de se hisser, de s'exaucer, vous voyez, du quotidien et finalement d'avoir le sentiment d'être utile à une œuvre collective qui fait du bien aux gens par le beau. Et c'est ça, finalement, la force du Puy du Fou depuis l'origine. Et sans le bénévolat, le Puy du Fou n'aurait pas pu naître. Mais aujourd'hui, en effet, nous avons, grâce au bénévolat de l'origine et que nous avons conservé, vous l'avez compris, créé un modèle économique complet qui donne du travail aux gens. Et finalement, pour reprendre la métaphore qu'on pourrait prendre avec Chambord, moi, je ne viens pas à Chambord donner dans la main qui se tend une obole passagère qui consisterait à faire un don, parce que ça n'est pas ça l'enjeu, je crois. L'enjeu, il est à plus long terme de sauver Chambord, non pas seulement pour une fois, mais pour les années qui viennent. Moi, je viens proposer un emploi, si l'on peut dire, voyez, à Chambord, à travers un modèle économique pérenne qui, encore une fois, permettrait de sauver pour longtemps le château de Chambord.
Nicolas Dillier, merci beaucoup. On arrive au bout de la demi-heure que vous m'aviez promise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour défendre ce modèle culturel. On espère que Pierre Dubreuil, qui a courageusement refusé un spectacle proposé par Patrick Boucheron, donc autrement dit, voilà, Pierre Dubreuil n'est pas prisonnier de l'idéologie qui a présidé à la cérémonie des Jeux Olympiques. Et au contraire, il le dit, l'histoire de Chambord doit être racontée comme un récit, non pas comme un roman. Donc, en tout cas, pas le roman de Patrick Boucheron qui invente lui aussi une France un peu peu spécial. Espérons que ce modèle du Puy du Fou, vertueux, d'un point de vue économique, culturel, associatif, territorial, vous me pardonnerez de réemployer provincial, aurais-je dû dire, va pouvoir faire florès, sinon à Chambord, du moins ailleurs. L'État, grâce à Dieu, a été suffisamment imprévoyant et impécunieux pour qu'il y ait beaucoup de chefs-d'œuvre en péril, et peut-être que d'autres, passés cette dernière année tragique, seront intéressés par votre proposition. À très bientôt.